Géopolitique, Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Le 3 novembre prochain, la présidentielle américaine opposera le démocrate Joe Biden au républicain Donald Trump. L'ancien vice-président de Barack Obama contre l'actuel occupant de la Maison-Blanche. Deux hommes que tout oppose, deux visions de l'Amérique. Donald Trump comptait sur la convention républicaine de Charlotte en Caroline du Nord pour se relancer. Refaire son retard sur Joe Biden, a-t-il marqué des points? Joe Biden, lui, voulait profiter de la convention démocrate à Milwaukee pour rassembler derrière lui tous les démocrates, y compris les plus à gauche. A-t-il gagné son pari? Quelle incidence aura sur le scrutin la crise du coronavirus et ses 180 000 morts aux États-Unis? Quel impact risque d'avoir sur les électeurs des deux partis l'affaire Jacob Blake, nouvel exemple de violence policière visant un Afro-Américain, et les violences qui s'en sont suivies dans la ville de Kenosha? On en débat avec Laurence Nardon. Bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le programme Amérique du Nord à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous analysez chaque semaine les enjeux de la campagne présidentielle américaine dans vos podcasts audio Trump 2020, produit par l'IFRI en partenariat avec la lettre d'information Time to Sign Off et Slate.fr. Laurie Kenton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et vous avez dirigé Le rêve américain à l'épreuve de Donald Trump, un livre collectif qui paraîtra le 8 octobre aux éditions Vendémiaire. Et Romain Huret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis, directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et vous avez publié American Tax Resisters chez Harvard University Press.
Love is more powerful than hate. Hope is more powerful than fear. And light is more powerful than dark. This is our moment. This is our mission.
We have to win. This is the most important election in the history of our country.
La promesse de Joe Biden de sortir les États-Unis des ténèbres, la rage de Donald Trump à l'emporter. D'abord, une première question à tous les trois. Est-ce que l'un des deux candidats a mieux réussi sa convention que l'autre? Laurence Nardon.
Ça dépend de quel point de vue on se place. Je pense que pour leur électorat à tous les deux, ils ont assez bien réussi chacun leur convention. C'est-à-dire que Joe Biden a réussi à parler à tous les démocrates, à unir le parti, ce qui était vraiment l'objectif. Et vu le soutien qu'il reçoit de Sanders et de la gauche radicale du parti, c'est assez bien réussi, en tout cas au niveau du parti. La rue, c'est autre chose, on en parlera tout à l'heure. Côté républicain, Trump a lui aussi parlé à sa base. Et il l'a électrifié, on l'a vu, avec ses discours extrêmement agressifs et virulents.
Romain Huret ?
Même chose, même constat. Je crois que les deux ont fait ce qu'on attendait d'eux. Hein. Biden a fait du Biden, Trump du Trump. Hein, et ils ont plutôt galvanisé les troupes. Il faut rappeler que le contexte est exceptionnel. Ce n'est pas simple de faire... Une convention sans personne.
Voilà,
habituellement,
ce sont des
grands shows. Hein. Il y a une animation, il y a les délégués. Enfin, c'est une grande fête dans la ville,
il y a
la musique, etc.
Enfin,
c'est grande fête à l'américaine. Donc là, je trouve que dans les circonstances très compliquées, ils ont réussi plutôt leur convention.
Laurie Kenton.
Alors, c'était tout à fait inédit et du point de vue technique, c'était un défi qui a été quand même plutôt bien relevé. La convention démocrate passait en premier, donc il y avait peut-être plus de pression et d'un point de vue technique, ça s'est passé sans encombre, ce qui était vraiment pas évident, donc ça c'était bien. La convention républicaine s'est aussi bien déroulée. En revanche, il y a certaines choses qui étaient un peu plus douteuses, c'est-à-dire que il y a une série d'intervenants républicains qui ont parlé dans une salle vide et ça faisait vraiment un effet assez étrange, assez caverneux. On les voyait parfois s'exciter, c'était complètement disproportionné d'une certaine manière, alors que les clips enregistrés passaient mieux. Les discours, en gros, étaient assez prévisibles et il n'y a pas eu vraiment de surprise, bonne ou mauvaise. Hein.
Et est-ce que la convention démocrate et la convention républicaine ont eu autant d'audience l'une que l'autre? Est-ce que vous connaissez un peu les chiffres ou pas? Laurie Kenton.
Les chiffres qu'on a eu, les chiffres Nielsen, donc pour l'audimat, sont en recul pour les deux par rapport aux conventions précédentes, mais un peu plus en deçà pour les républicains. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment interpréter ces chiffres parce que la consommation de l'information a radicalement changé depuis quelques années. On consomme l'information beaucoup plus en différé, en replay, sur Internet, etc. Et donc les chiffres des téléspectateurs ne veulent pas forcément dire ce qu'ils disent.
Est-ce que l'avance dont jouissait Joe Biden Biden dans les sondages avant la convention démocrate était réellement significative. Quelle était son avance sur Donald Trump? On dit tout le temps en tête dans les sondages, etc., etc. Mais est-ce que c'est un écart énorme ou un écart, je sais pas, classique ou...
Vers mai-juin, on a eu des sondages qui donnaient une avance à Joe Biden supérieure à 10 points, c'est-à-dire jusqu'à 14-15 points. Mais ce qu'on dit toujours, c'est-à-dire que c'était des sondages nationaux qui veulent pas dire grand-chose parce qu'il faut regarder les sondages dans les États flottants, les États qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre de manière vraiment difficilement prévisible le soir de l'élection. C'est ce qui s'est passé en 2016. Vous vous souvenez, il y a eu cette demi-douzaine d'États qui a basculé vraiment à une micro-majorité du côté républicain et cet alignement des étoiles a produit la victoire de Trump alors que Hillary Clinton, souvenez-vous, avait beaucoup plus de voix.
3 millions de voix supplémentaires.
Et donc, ça peut toujours se reproduire cette fois-ci. Donc, ces sondages avec plus de 10 points d'avance pour Biden étaient quand même bon signe. On voit, les démocrates ne vont pas pleurer, mais c'est toujours très compliqué d'analyser cela.
On va revenir en détail sur la convention démocrate d'abord. Un casting de choix, c'est ce qui a frappé les observateurs. Michelle et Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, toutes les sensibilités démocrates se sont exprimées. Est-ce que les éventuels rancœurs des primaires sont effacés, Romain Huret?
Oui, non, ils n'ont pas d'autre choix de toute façon que d'afficher une unité de façade. Hein. Surtout que je pense que le contexte épidémique facilite une cohésion du parti. Imaginons une situation sans épidémie, on aurait eu des débats très très forts, beaucoup plus houleux sur le programme de Biden, le programme concret. Qu'est-ce qu'il va faire pour l'éducation? Qu'est-ce qu'il va faire pour la santé? Est-ce qu'il est favorable ou non à l'augmentation des impôts pour les plus riches? Est-ce qu'il est favorable ou non à la gratuité dans les universités d'État? Là, on voit très bien que d'une certaine manière, ça sert le parti d'avoir une priorité, c'est de trouver une solution dans les meilleurs délais à la crise sanitaire du pays et de sortir Trump de la Maison-Blanche.
Vous dites priorité sortir Trump de la Maison-Blanche, mais est-ce que justement la convention démocrate, au moins pendant les premiers jours, ne s'est pas focalisée sur le bilan de Trump, sur la démolition de Trump, et on est resté un peu sur notre faim quant au programme justement de Joe Biden?
Mais il y a deux choses à voir. La première chose, c'est que c'est tout à fait classique. Quand on a des opposants qui veulent reprendre la Maison-Blanche, ils vont jamais dire que le bilan du président actuel est plutôt bon. Donc forcément, on va avoir, que ce soit les démocrates ou les républicains, ils vont faire un tableau apocalyptique de l'administration actuelle pour dire que eux feront mieux. Mais le curseur sur comment ils vont faire mieux est plus ou moins flottant. De la même manière que Trump, dans sa position actuelle, défend un bilan plus ou moins imaginaire.
Oui, parce qu'il réécrit l'histoire.
Il réécrit l'histoire. Mais lui, il va forcément dire que son bilan est bon et que les autres feraient des catastrophes. Donc ça, on est dans les positions qui sont tout à fait attendues. Mais la grosse interrogation, et c'est pour ça que la question du programme, pour moi, elle est pas secondaire, mais tout va dépendre de l'équilibre du Congrès. Si les démocrates emportent la Maison-Blanche mais que les républicains gardent le Sénat, ils pourront dire ce qu'ils veulent dans le programme, ils pourront pas le faire. Ou alors vraiment à la marge. Donc ce qui compte vraiment, c'est l'état des institutions en novembre. La Maison-Blanche, mais aussi le Sénat, qui pour l'instant est républicain. Les démocrates sont en bonne position pour l'instant pour le reprendre de justesse, mais ça n'est pas fait. Et un président Biden avec un Congrès républicain ne pourra pas faire grand-chose, quel que soit son programme.
Laurence Nardon?
Oui, Laurie parle de ce qui pourrait se passer réellement dans la politique américaine si Biden est élu, en fonction de l'équilibre des forces au Congrès. Mais pour l'instant, dans la campagne, je voudrais être un peu plus proactif que ce qu'a dit Romain. Je pense que le Parti démocrate essaye d'afficher une unité qui n'est pas uniquement de façade, parce que ils ont bien compris qu'il y avait deux ailes en ce moment dans le Parti démocrate. L'aile des modérés à la Biden, qui est en fait un libéral d'un point de vue économique. C'est le rôle qu'il a joué pendant des années dans la politique américaine. Et puis de l'autre côté, il y a cette aile gauche du Parti démocrate qui, depuis la crise de 2008, depuis le mouvement Occupy Wall Street de 2011, a ébauché et développé un programme vraiment socialiste, entre guillemets, ce qui est un gros mot aux États-Unis, mais je crois qu'on pourrait dire socialiste même correspondant au contexte français. Et ces deux ailes qui sont vraiment, en réalité, irréconciliables d'un point de vue programmatique, ont bien compris qu'elles devaient convaincre l'électorat démocrate dans son ensemble. Et depuis le mois de mai, à la demande de Biden, une une fois que son investiture était assurée, des groupes de travail se sont mis en place entre les deux ailes sur 6 sujets, donc l'éducation, la santé,
l'environnement,
etc. Je les cite pas tous, pour vraiment pouvoir proposer aux électeurs des vraies mesures concrètes. Alors, c'est ce qui a été discuté pendant la convention, mais tout n'est pas encore sorti. Et l'idée, c'est que les électeurs démocrates puissent se dire, on a un vrai programme qui fait un peu la part des choses entre les deux ailes, un peu un juste milieu, et donc on peut voter pour des vraies mesures, ça n'est pas flou. Alors évidemment, si Biden est élu, il n'est pas du tout certain qu'il pourra faire quoi que ce soit si le Congrès reste républicain et ne le laisse pas passer les lois. La manière dont le parti essaye de créer un vrai programme solide et clair entre les deux ailes idéologiques qu'on a aujourd'hui au Parti démocrate.
Donc par exemple, la participation d'Alexandria Ocasio-Cortez dans le comité qui s'occupe du Green New Deal, ce n'est pas de la figuration, Laurie Gantone.
Non, on a beaucoup reproché à la gauche du Parti démocrate, la gauche du Parti démocrate a beaucoup reproché le fait que Ocasio-Cortez n'avait qu'une minute pour s'exprimer, ce qui était moins que certains républicains. Mais ça, c'est un petit peu pour le théâtre, alors que la réalité du travail qui a été fait en coulisses, elle a eu beaucoup plus, justement, de marge de manœuvre pour l'élaboration du vrai programme, de la même manière que Bernie Sanders. De ce point de vue-là, il y a eu un travail qui a été très discret, hein, finalement, parce que il y a que les observateurs assidus de la politique qui ont vu ça. Ça s'est moins vu à la convention, mais c'est vrai qu'il y a eu un travail qui a été beaucoup plus collaboratif, ce qui n'était pas forcément le cas les années précédentes. Sanders avait réussi à un petit peu infléchir le programme de Clinton il y a 4 ans, mais c'était beaucoup plus à la marge. Donc là, il y a un véritable travail qui a été fait, qui reste assez discret et que les démocrates pourraient justement plus médiatiser.
Romain Hurey, qu'avez-vous pensé du discours de la sénatrice de Californie, Kamala Harris, donc colistière de Joe Biden, première femme de couleur à figurer sur un ticket présidentiel américain? Est-ce qu'elle peut séduire Kamala Harris au-delà de l'électorat démocrate traditionnel?
L'avenir le dira, je ne fais jamais de pronostic, surtout en ce moment, c'est extrêmement dangereux. Mais sur le discours et le choix de Kamala Harris, on est quand même sur une position assez centriste. On est dans le symbole, hein, et le Parti démocrate a eu tendance ces dernières années à beaucoup jouer des symboles, hein, plus que du concret. Donc c'est pour ça qu'on revient à la question du programme. Mais je pense qu'elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'il va falloir mobiliser des électeurs et des électrices dans les états clés. Et les jeunes, les plus militants, au cours des derniers mois, ont été des jeunes, des jeunes femmes, des jeunes hommes, souvent issus de minorités, et qui ont fait campagne pour Sanders, qui ont fait campagne pour d'autres, hein, militants de plus à gauche. Et donc, il faut quand même un programme qui les séduise. Je pense pas que Biden va les séduire. C'est pas quelqu'un qui a un charisme à la Obama. Je pense pas que le discours de Kamala Harris va les séduire également. Donc, il faut un programme. Il faut que ces jeunes hommes, ces jeunes femmes sortent en septembre, en octobre et début novembre jusqu'au dernier moment pour aller faire gagner Biden dans les états clés, hein. La bataille, elle va être rude, hein. Là, on est dans un combat de boxe. Il y a 12 rounds. On sait très bien que ça va jouer au 12e. Donc là, on attend. Chacun attend et compte les points. Ça va être extrêmement dur. Tout le monde le sait. Le Wisconsin, on va en parler, mais a été gagné de très très peu par Trump. Il peut à nouveau le gagner, il peut le perdre, et ça va jouer à quelques voix. Donc il faut vraiment que, je reviens à ça, au-delà du symbole, au-delà des beaux discours, il faut un programme, il faut que des jeunes se sentent investis et le sentiment que l'Amérique pourrait changer véritablement et que leur avenir pourrait être meilleur si Biden arrive à la Maison-Blanche.
Lauric?
Oui, ça a été le cas en 2018, on l'a vu assez nettement. Alors, les bons scores de 2018 sont aussi peut-être dus, comme c'est le cas aux élections de mi-mandat, à une défection des républicains, ce qui sera pas forcément le cas avec les enjeux de cette élection-là. Donc c'est là qu'on va avoir un combat de mobilisation. Mobilisation pour, c'est-à-dire pour un programme, mais aussi mobilisation contre. Et les deux jouent, et les deux sont indissociables de ce point de vue-là. Donc les deux vont essayer de mobiliser. Les démocrates font mieux ces derniers temps, avec effectivement un candidat qui est pas le plus charismatique, et donc il faudrait avoir une mobilisation de type Obama mais sans Obama, et donc ça c'est plus compliqué. Les républicains, eux, vont beaucoup plus faire du porte-à-porte, ce qui est quand même le plus efficace. C'est plus efficace que le téléphone, c'est plus efficace que les notifications internet, et là-dessus ils ont une longueur d'avance. Ils ont des réseaux évangéliques qui sont aussi extrêmement rodés depuis plus de 20 ans à cet exercice-là, et donc ils ont une machine de mobilisation qui est d'une efficacité redoutable.
Et le vote évangélique reste à qui, à Donald Trump?
À 80%, oui.
Et à combien estime-t-on le nombre d'électeurs encore indécis aux États-Unis, Laurence?
Les indépendants représentent, qui ne se reconnaissent ni du côté démocrate ni du côté républicain, représentent un peu moins d'un tiers des électeurs américains. Donc est-ce que parmi ces indépendants aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui sont indécis sur leur vote ? Je ne crois pas, parce que je pense que la polarisation fait que le nombre d'indécis est assez faible. Il faut choisir son camp. Mais pour revenir au ticket démocrate, Biden-Harris, je pense que ce qui est intéressant de noter, et je pense que là aussi il y a une stratégie assez bonne, à mon sens, du Parti démocrate, c'est que, en choisissant Kamala Harris, qui effectivement est plutôt centriste, le ticket ne donne pas prise aux attaques du Parti républicain. On va certainement en parler tout à l'heure, mais le Parti républicain a choisi d'attaquer le camp démocrate sous l'angle du socialisme. C'est-à-dire que si Biden est élu, c'est ce que Trump a dit hier, l'Amérique va sombrer dans un chaos, ce sera l'Union soviétique.
Le cheval de Troie du socialisme.
Exactement, et on pourra plus faire ce qu'on veut, ce sera le totalitarisme stalinien dans le pays. Bon, eh bien, c'est assez fin de la part du Parti démocrate d'avoir festiqué Harris Biden, parce que justement, ça donne pas prise à cette attaque. Il est difficile de les peindre tous les deux comme inféodés à l'extrême gauche, comme tente de le faire Donald Trump.
J'ai une question par rapport au soutien des républicains qu'on a vu lors de la convention démocrate. On a entendu le général Colin Powell, mais aussi l'ancien gouverneur de l'Ohio, John Kasich. Est-ce que ces ralliements, Romain Huret, peuvent troubler, voire influencer l'électeur de base républicain?
C'est possible, sans doute, mais je crois malheureusement à la marge. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir des effets, peut-être en Californie ou dans l'État de New York, on va avoir des républicains modérés qui vont voter Biden. Donc on aura des scores tout à fait élevés de Biden dans certains États, déjà acquis à la cause démocrate. Mais à nouveau, l'enjeu est dans ces États clés et ça va jouer de manière incroyable dans une démocratie aussi où il y a autant d'électeurs, ça va jouer à quelques milliers de voix dans des États. Donc est-ce que là, ça aura vraiment un effet sur ce fameux homme blanc de la petite classe moyenne et du monde ouvrier? Je suis pas certain que ce ralliement, parce que c'est beaucoup d'élites, hein, beaucoup de membres de l'establishment de Washington qui sont scandalisés par l'action de Trump depuis plusieurs années. On peut que saluer ce type d'exigence morale qui est la leur, hein. Mais ensuite, concrètement, à nouveau, je pense que le combat, et il faut vraiment que le Parti démocrate accepte de salir les mains, parce qu'il va falloir aller chercher les voix là, et ça ne jouera pas dans la presse ou à Washington, ça va jouer dans les comtés du Wisconsin, ça va jouer dans les comtés de l'Ohio et de Floride, et ça va être du, comme l'a dit Laurie, hein, ça va être du porte-à-porte, enfin, ça va être c'est une campagne à l'ancienne, hein. Et Obama avait réussi ça, hein. Il a réussi à créer cette dynamique, c'est-à-dire la campagne elle se gagne parce que vous avez des militants qui vont chercher les voix. Il faut vraiment que le Parti démocrate fasse cela et se trompe pas comme il y a 4 ans, c'est-à-dire Hillary avait déjà gagné en quelque sorte plusieurs mois à l'avance et on a vu le résultat des catastrophiques.
Elle s'est reposée sur ses
lauriers. Voilà, exactement. Et il faut une campagne, ça se gagne jusqu'au bout. Et Trump, il l'a montré, il est très bon en campagne. C'est un excellent compétiteur, hein, il l'a toujours montré. Donc il va mener le combat jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute. Donc il faut que le parti en prenne conscience et fasse le nécessaire.
Loric, vous êtes d'accord? Ça n'aura qu'un effet à la marge, ce ralliement de certaines personnalités républicaines.
Alors ces ralliements s'ajoutent à des campagnes de pub qui sont plutôt bien faites d'ailleurs, et je m'interroge depuis plusieurs semaines sur l'efficacité de ces campagnes de pub de républicains contre Trump. Et le ralliement des élites dont parlait Romain peut même être contre-productif, parce que quand on voit tous les anciens généraux, les membres des services secrets, etc., qui se rallient à Biden contre Trump, ça peut alimenter, à contrario, le discours trumpiste. Regardez l'establishment de Washington, tous ces gens qui travaillent à Washington sont en réalité des démocrates, même quand ils se disent républicains in name only. Et donc, de ce point de vue-là, ça accrédite la thèse du deep state, d'élites de l'ombre qui veulent absolument maintenir le statu quo.
Et qui complotent en coulisses.
Contre Trump. Et Trump est le sauveur.
Laurence.
Oui, tout à fait. On parle en fait du Lincoln Project, qui est l'un de ces groupes de républicains anti-Trump. Et c'est vrai, c'est les élites de Washington. Et elles vont pas du tout faire changer d'avis la base. Au contraire. Cependant, il y a d'autres groupes de républicains anti-Trump, et donc ce parti républicain qui depuis 4 ans est totalement dans un état de sidération devant le président Trump. La plupart des républicains n'aiment pas beaucoup le président, mais ils n'osent pas en dire trop. Il y a quand même des groupes anti-Trump qui sont plus populaires, entre guillemets. Je pense notamment à Republican Voters Against Trump, qui est un groupe d'électeurs, mais alors là, plutôt de base. Et puis aussi les vétérans. Il y a un groupe qui s'appelle Vétérans Against Trump, eux ne font pas partie des élites, et donc il faut voir si ils réussissent à créer le buzz. Jusqu'à présent, le Lincoln Project, donc ce groupe plutôt élitiste, fait une com sur les réseaux excellente, mais peut-être contre-productive. Les deux autres groupes que j'ai mentionnés sont peut-être pas encore aussi visibles, mais peut-être auront-ils dans la suite des semaines une influence, mais tout reste très flou à ce stade.
Laurence Nardon, Romain Huret, Laurie Kenton, on va faire une pause le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à débattre de la campagne électorale américaine.
Géopolitique, Chantal Loureau.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Donné en tête dans les sondages, le démocrate Joe Biden, 77 ans, réussira-t-il à garder jusqu'au 3 novembre une longueur d'avance sur son rival républicain, Donald Trump, 74 ans? L'affaire Jacob Blake et la question des violences policières visant les Afro-Américains peut-elle avoir une incidence sur les résultats du scrutin du 3 novembre? On continue d'en débattre avec trois spécialistes des États-Unis, Laurence Nardon, Laurie Kenton et Romain Huret. On a parlé tout à l'heure de la Convention démocrate. Passons maintenant à la Convention républicaine qui s'est achevée jeudi soir. Visiblement, Trump n'en a fait qu'à sa tête. Son équipe de campagne voulait une tonalité gaie et optimiste pour trancher avec la Convention démocrate que Trump avait lui-même jugée comme la plus sombre, colérique et lugubre de l'histoire américaine. Mais le président Trump a surpris tout le monde. Il a préféré insister sur les conséquences désastreuse qu'aurait pour le pays l'élection de son rival Joe Biden. Il a accusé Biden dans son discours de clôture d'être le fossoyeur de la grandeur des États-Unis. En gros, son programme, c'est moi ou le chaos, les Rukenton.
Oui, toujours. De toute façon, c'est très trumpien et ça rappelle beaucoup la tonalité de la campagne de 2016, hein, où Obama était accusé par la campagne Trump d'être le fossoyeur de la grandeur de l'Amérique. Make America Great Again, c'était exactement ça. Obama a affaiblit l'Amérique, Obama-Biden, hein, n'oublions pas. Et donc, moi, et moi seul, ce qu'il avait dit, I alone can fix it, moi seul peux réparer ça, ce qui était déjà le slogan de Reagan, ce qui montre bien que en 80, Reagan disait la même chose après Carter. Donc là, on est dans une répartition des rôles qui est finalement très classique, même si c'est très attendu et très propre à Trump.
Et les arguments avancés, ou plutôt les critiques, hein, il n'a pas lésiné sur les critiques sur Joe Biden. On peut rappeler, hein, il l'a qualifié de marionnette de l'extrême gauche, de cheval de Troie du socialisme, donc un homme faible. Est-ce que c'est un reproche récurrent qu'on a fait à Biden? On s'est demandé s'il avait la carrure pour endosser le costume présidentiel. Est-ce que là, Trump appuie là où ça fait mal, Romain Huret?
Probablement, oui. Il appuie comme cela avec tout le monde. Hein. J'ai rarement entendu Trump faire des compliments à qui depuis 4-5 ans, je crois, qu'il est entré en politique de manière aussi dynamique. Donc c'est une rhétorique très traditionnelle chez lui. Il est systématiquement dans un discours extrêmement sombre, extrêmement dur sur l'état de l'Amérique, sur l'état des adversaires. Enfin, c'est toujours une peinture apocalyptique du monde. Et cette peinture, curieusement, hein, et c'est un vrai paradoxe que cherchent à expliquer les politistes, c'est pas simple, hein, de comprendre pourquoi un électorat se rallie, hein, à cette peinture toujours très très sombre. Et on l'a vu aussi Hillary Clinton, hein, qui avait eu à l'inverse un discours extrêmement optimiste en 2016, hein, de l'Amérique, de la mondialisation, de l'avenir de l'Amérique, de la Silicon Valley. Enfin, elle dressait une peinture très joyeuse de l'Amérique, hein, très gaie, très optimiste. Là, on voit bien que ces discours apocalyptiques prennent. Alors, je ne sais pas s'ils vont prendre cette année, si une partie de l'électorat va se reconnaître. Mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi, pour Biden, hein, peut-être un danger aussi, de ne pas prendre en compte cette capacité de l'électorat à se reconnaître dans ce discours apocalyptique. Donc, il ne faut peut-être pas le mettre sous le tapis en disant qu'il fait du Trump et il raconte n'importe quoi. Curieusement, ce discours-là séduit beaucoup de gens qui se reconnaissent dedans.
Laurence Nardon.
Oui, en 2016, c'était le discours du carnage qui avait été écrit par Stephen Miller. Donc, c'était le discours d'investiture de Trump. Donc, un discours effectivement extrêmement sombre. Mais je pense qu'il fonctionne parce que Trump, avec cette espèce de génie politique, il faut lui reconnaître, en tout cas de génie de la com ou de la lecture de l'électorat, il avait su en 2016 voir qu'une grande partie de l'électorat américain était en réalité très angoissé, à la fois pour des raisons économiques, donc c'était les classes moyennes au chômage, victimes de l'épidémie des opioïdes, Covid, etc. Il y avait également une angoisse identitaire face à l'immigration qui, aux États-Unis, est très bien mesurée par le bureau du recensement, donc il n'y a pas de fantasme possible. Et puis, troisièmement, l'électorat évangélique qui était, pour sa part, inquiet des évolutions sociétales. Trump avait su lire ses angoisses dans la population, les traduire en politique et se faire élire sur cette vague. Et de fait, 4 ans plus tard, il peut continuer, et c'est ça qui est étonnant en réalité, je pense, il peut continuer à tenir ce même discours sur une Amérique très en danger et qu'il faut absolument sauver d'un président démocrate, alors même que ça fait 4 ans qu'il est au pouvoir et qu'il a tenu la plupart de ses promesses d'ailleurs. Et pourtant, il peut continuer à tenir le même discours d'un danger imminent pour le pays.
Et vous parlez d'électorat angoissé. 58,2% des Américains désapprouvent la façon dont il a géré la crise du coronavirus. Est-ce que ça, quand même, il ne risque pas de le payer, Laurie Kenton?
Alors, ça dépend. Rationnellement, on pourrait penser que oui. Quand on regarde les sondages, on voit que c'est pas si flagrant que ça, notamment chez les personnes âgées. Les personnes âgées qui sont déterminantes parce qu'elles votent beaucoup plus que les jeunes, notamment par exemple en Floride et dans certains états clés du sud, l'Arizona, où il y a beaucoup de gens qui sont partis du nord pour prendre leur retraite au soleil. Donc là, c'est vraiment des catégories qui sont extrêmement importantes et extrêmement vulnérables, donc qui pourraient tenir rigueur à Trump, et on l'a vu dans certains sondages. Mais c'est plus aussi flagrant que ça a été il y a quelques mois, et donc on peut se demander si, à quel point ça rentre dans l'équation. Rationnellement, ça devrait être assez dévastateur. Mais force est de constater que ça l'est pas de manière vraiment, vraiment flagrante. En tout cas, peut-être pas encore.
Mais quand aujourd'hui, il agite la thèse du complot, par exemple, des membres de l'État profond, hein, que vous citiez tout à l'heure, Lauric, au sein de l'autorité américaine du médicament, qui tenterait de retarder un vaccin contre le coronavirus, ce qui ne perd pas en crédibilité quand il agite ce genre de thèse?
Disons qu'il y a deux choses, et c'est ce qu'on n'a pas forcément ailleurs. Il y a l'État fédéral qui a un rôle de coordination, et c'est là-dessus qu'il a eu une action qui est insuffisante. Et en même temps, il y a les États fédérés, et c'est eux qui ont beaucoup plus la main, par exemple, sur les fermetures, sur les confinements, ce genre de choses. Donc il y a un procès qu'on peut faire à Trump sur l'action fédérale, un procès qui est difficile de lui faire sur l'action locale, l'action municipale, l'action dans les États. La gestion du coronavirus, elle est dissociée de ce point de vue-là. Donc lui, il a un certain nombre d'intérêts, notamment d'intérêt financier sur la question du vaccin, et surtout il a besoin du vaccin. Le vaccin, et c'est un petit peu de la pensée magique, on l'a vu dans son discours d'hier soir, il annonce un vaccin de manière performative. Il l'annonce, donc il y a un vaccin, donc ça va aller mieux, l'économie va se redresser et les gens vont voter pour lui. Il a besoin d'instiller dans l'esprit des Américains qui seraient encore indécis le fait que ça va aller mieux. Et les courbes en ce moment vont mieux aux États-Unis, donc on peut éventuellement parier, comme l'économie américaine est extrêmement élastique, sur un rebond de l'économie dans les au mois de septembre-octobre.
Oui, parce que c'était sa carte maîtresse. Et la pandémie l'a mise par terre.
Et c'était la carte maîtresse jusqu'à février-mars. Il pensait que ça allait le sauver parce que dans tous les compartiments du jeu, comme disent les commentateurs sportifs, Biden est devant Trump, sauf pour l'économie. Et les indépendants donnent crédit à Trump sur l'économie. Malgré tout le reste, et c'est ça qui est assez dingue, c'est que malgré tout ce qui est documenté par le fact-checking, etc., malgré tout ça, les indépendants donnent crédit à Trump devant Biden sur l'économie. Si l'économie reprend, et si Trump arrive à vendre ça, parce qu'il a vanté beaucoup ses créations d'emplois, ce qu'il a pas dit, c'est que c'était des créations d'emplois qui faisaient suite à des destructions d'emplois qui étaient bien supérieures. Les fact-checkers de CNN l'ont rappelé à l'issue de son discours. Le problème, c'est qu'est-ce que l'opinion va en garder?
Alors, on en vient maintenant à cette nouvelle bavure policière présumée. Donc, ça s'est passé dimanche dernier à Kenosha, dans le Wisconsin. Un Afro-Américain de 29 ans, Jacob Blake, a reçu sous les yeux de ses 3 jeunes enfants 8 balles dans le dos, tirées à bout portant par un policier blanc. La victime restera sans doute paralysée. Les 2 policiers impliqués ont été simplement suspendus. Depuis dimanche, Kenosha est sous tension. Mardi, 2 manifestants ont été tués par un adolescent de 17 ans, membre apparemment d'une milice d'extrême droite. Et les réactions de la population à Kenosha sont extrêmement partagées. On l'a entendu dans les reportages de notre envoyé spécial Anne Corpet sur place. On a entendu des habitants écœurés par ce qui est arrivé à Jacob Blake, mais aussi des gens qui ne supportent pas la colère des manifestants, qui ne supportent pas les pillages et qui ont sorti leurs armes. On a entendu une habitante terrifiée dire « Il y a une majorité silencieuse et on va l'entendre le 3 novembre ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Laurence Nardon.
Oui, alors on est vraiment clairement dans un moment de grande tension raciale aux États-Unis. Ça a commencé le 25 mai avec la mort de George Floyd. Les vidéos étaient horribles, et celle avec Jacob Blake, qu'on a tous vu, est vraiment tout à fait glaçante aussi. Et donc, la population américaine essaye de réagir à cela. Ce qu'on voit dans les manifestations raciales aujourd'hui aux États-Unis, c'est deux choses. C'est d'abord la présence de beaucoup de blancs dans ces manifestations, qui montrent qu'il y a quand même, par rapport aux années 60, une évolution de la pensée générale des Américains sur les questions raciales. C'est-à-dire que ça n'est plus juste les membres des minorités qui cherchent à se défendre, mais c'est une majorité de gens aux États-Unis qui pensent que la situation doit changer. La plupart des manifestations sont pacifiques et sont de très bonne tenue. Le gros problème pour les démocrates dans ce cycle électoral, c'est lorsque certaines de ces manifestations dégénèrent. Vous en avez parlé, pillage, émeute, violence, etc. Parce que, très clairement, c'est une opportunité en or pour le camp de Trump. Il y a eu hier cette grande manifestation à Washington. Il est clair que chaque fois qu'il y a des violences, ça gagne des points pour le camp Trump. Et du coup, l'establishment démocrate est assez inquiet de l'évolution de cette réaction populaire.
Laurie Kenton, ça va être difficile à gérer ce drame de Kenosha pour le Parti démocrate et Joe Biden?
En fait, c'est une question d'image et de perception. Donc, on va avoir des gens qui trouvent que ce qui est arrivé à Jacob Blake, c'est terrible et c'est inacceptable, etc. Mais que ça ne justifie pas les violences, le fait que des magasins soient brûlés, la destruction de la propriété, etc. Et donc, on a effectivement une multiplication de reportages à Kenosha, dans le New York Times, etc., sur des habitants qui trouvent que ça va peut-être un petit peu loin. Et le problème des médias, c'est que on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Et donc, ce que Laurence décrivait sur les manifestations pacifiques, qui sont plus nombreuses, on en parle moins. Après, par exemple, le Parti républicain et Fox News a fait son miel il y a quelques jours d'une image de CNN où le journaliste était devant un arrière-plan en feu, émeute urbaine, etc. Et sur le bandeau en bas, il y a marqué des manifestations globalement pacifiques. Il y avait un décalage entre la réalité que le téléspectateur voyait et la couverture par les médias qui accréditait la thèse trumpienne des médias vous mentent et les médias vous disent n'importe quoi.
Romain Huret.
Trois remarques très rapides sur ce qui s'est passé dans le Wisconsin que j'ai trouvé les événements tout à fait fascinants. La première, c'est ça se passe dans le Wisconsin. Et le Wisconsin, petite échelle, c'est la polarisation de l'Amérique. C'est un état plutôt rural avec des comtés très très conservateurs et des petits îlots, Madison, Milwaukee, très progressistes, très très à gauche. Et donc la polarisation, Chantal, dont vous avez parlé, hein, ces habitants qui disent ah non non moi je suis je comprends ce qui s'est passé, vous allez voir le 3 novembre, etc. C'est l'Amérique en miniature. Le deuxième point, le Wisconsin, depuis très longtemps, comme tous ces États du Midwest, c'est un lieu où sont apparus dans les années 80-90 des milices blanches qui étaient plutôt anonymes, qui faisaient rire tout le monde dans les années 70-80, qui étaient composés d'anciens combattants de retour du Vietnam, de retour des guerres du Golfe, et qui, progressivement, ont acquis une visibilité de plus en plus grande dans le pays, et à qui Donald Trump a donné une très très grande visibilité, en les légitimant par son discours sur le déclin racial, le déclin de l'homme blanc, etc. Donc c'est pas un hasard si maintenant on a des gamins de 17 ans, parce que je rappelle, il a 17 ans, un jeune homme de 17 ans, qui agit comme cela dans les rues de la ville. Dernier point, je m'arrête là. J'invite vraiment les auditeurs à aller voir les images de ce qui s'est passé pendant la manifestation, et je pense qu'on montrerait ça à n'importe qui en disant, dans quel pays ça se passe. Quand on voit des manifestants et des hommes qui arrivent avec des armes et qui pourchassent des manifestants dans toute la ville, c'est d'une violence stupéfiante. Enfin, je pensais qu'on, avec George Floyd, on avait atteint un niveau de violence dans la démocratie américaine. Là, on est dans un moment tout à fait étonnant.
Et la garde républicaine laisse faire.
En tout cas, là, on voit ces images où les gens courent avec des armes, etc., pour des raisons politiques. Hein. C'est-à-dire qu'on est, c'est pas des gangs ou c'est pas des questions de drogue ou choses illégales. On est dans un cadre légal de manifestants, un cadre du politique. Et de voir ce dérèglement-là de la chose politique dans une démocratie, ça devrait inquiéter tout le monde. Je pense que là, il faudrait un temps d'arrêt pour collectivement les deux bords s'entendent et que ça soit inadmissible qu'un jeune gamin, un gamin de 17 ans. C'est d'une violence et ça dit tellement de choses extrêmement inquiétantes sur l'état de la démocratie.
On va dire un mot sur la polémique qui a émaillé aussi ces dernières semaines la campagne américaine, celle qui entoure le vote par correspondance, le vote à distance. Donald Trump a déclaré il y a quelques jours que le résultat du scrutin du 3 novembre pourrait mettre des semaines, des mois, voire ne jamais être connu à cause des délais pour dépouiller les bulletins acheminés par la poste. Est-ce que le président américain pourrait jouer là-dessus et refuser de quitter le, le bureau ovale de la Maison-Blanche.
Ce serait tellement un-American, ce serait tellement contraire à toute la tradition du pays. Je pense que si Trump perd l'élection, comme on sait que c'est un personnage très narcissique, qui n'accepte pas la critique et l'échec, oui, il aura du mal à accepter sa défaite, c'est évident. Mais de là à refuser de quitter la Maison-Blanche, je pense que les caciques de son parti, eux-mêmes, ne l'appuieront pas du tout dans cette démarche. Mais c'est vrai qu'il prend déjà des mesures aujourd'hui à dire « je ne suis pas sûr d'accepter le résultat de l'élection ». S'il y a des fraudes. Je pense que quand il a dit ça, c'était il y a quelques semaines dans une interview, c'était aussi très largement un piège de communication qu'il tendait aux démocrates et dans lesquels les démocrates se sont jetés avec beaucoup d'enthousiasme, à dire regardez, il n'est pas démocrate, il ne respecte pas les institutions. Je pense que c'était pas forcément très sérieux de la part de Trump.
Romain Huret, ce procès intenté par Trump au vote à distance, alors que lui-même a déjà voté à distance en 2018 par exemple pour les élections de mi-mandat, c'est un faux procès. Il n'y a pas eu dans le passé de résultats truqués par le vote par correspondance.
C'est un faux procès, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que sous l'attaque et sous les questions que Trump a posées sur la possibilité que l'élection se tienne, il a raison. C'est-à-dire qu'on peut légitimement se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va faire voter autant de monde en une journée. Est-ce que le vote par correspondance est recevable? C'est pas simple. Hein, ça l'a pas été. On a vu que la démocratie américaine a des failles. Hein. On l'a vu en 2000, on l'a vu à plusieurs reprises. Les enveloppes arrivent tardivement. En cas de résultats très serrés dans les États, on peut imaginer que ces bulletins vont jouer un rôle très important. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'attaque contre la Poste, et ça a été perçu comme cela aux États-Unis. La Poste, c'est pas une institution comme les autres. Aux États-Unis, c'est une institution extrêmement importante.
Service public,
qui a été bien évidemment très durement attaqué par l'administration Trump. Hein. Mais c'est aussi un service public qui est très apprécié des Afro-Américains. La Poste est un très grand employeur d'Afro-Américains. Et là, je pense que dans l'attaque contre la Poste, il y avait également sous-entendu par Trump, et le message est plutôt bien passé. Il y a beaucoup de spécialistes de la Poste qui sont intervenus pour décrypter ce message sur l'idée que on était à nouveau dans du clientélisme démocrate. Hein. On allait avoir, comme le Parti démocrate sait parfaitement le faire, hein, de la corruption, de l'État qui donne du boulot. Hein. On va vous donner du boulot, vous irez travailler à la Poste si vous votez pour moi. Et il y avait tout ce sous-entendu hein, derrière l'attaque contre la Poste, hein, qui serait un service public inefficace, corrompu, comme l'État l'est généralement. Et donc, il faut plutôt faire confiance soit au vote traditionnel, soit au système privé. Donc là, il y avait aussi une vision du monde hein, de Trump, derrière cette attaque contre la Poste américaine.
Laurie Kenton, les États de New York, du New Jersey et de Hawaï ont attaqué en justice justement cette semaine Donald Trump et le patron de la Poste, Louis DeJoy, qui s'accusent de vouloir démanteler hein, le service public de la Poste avant la présidentielle de novembre. Donc, il dénonce un sabotage.
Alors, le timing est assez désastreux, même si les réformes sont anciennes. Et les réformes de la Poste, d'amincissement de la Poste, ont commencé sous Obama et Biden, hein, qui ont commencé ce genre de mesures.
Et mais on a vu des images de sacs postaux en attente dans les bureaux de poste. Donc, ce ralentissement dans le tri du courrier est déjà effectif.
Là, on a une accélération des mesures avec un ralentissement qui est en partie dû au coronavirus, mais pas uniquement. Donc, c'est assez compliqué. Personne n'arrive à vraiment savoir exactement pourquoi ça ralentit. En revanche, ce qui est vrai, ce que vous disiez, c'est que le matin du 4 novembre pour nous, on n'aura pas forcément grand-chose à se dire parce que il y aura encore des questions. On le voit déjà en Californie où c'est extrêmement long d'avoir les résultats définitifs, donc ça on le sait déjà. Il y a des États qui fonctionnent déjà avec du vote par correspondance, 5 États, dont un État républicain, l'Utah, et ça fonctionne, mais c'est long.
Donc il faut se préparer à plusieurs nuits blanches d'affilée à partir du 3 novembre, Laurence ?
Sans doute, mais pour regarder de plus loin, si on arrive à la fin de l'émission, je voudrais attirer l'attention des auditeurs sur l'une des grandes questions de cette élection, qui est comment les partis se reconfigurent. On a vu que les démocrates essayaient de faire un juste milieu entre leurs branches idéologiques. Je pense que la question pour l'avenir, c'est comment le parti républicain va réussir à se reconstruire après Trump. Alors après Trump, c'est soit 2020, soit 2024, on est bien d'accord. Mais est-ce que les ailes populistes conservatrices et modérées, celles qu'on entend très peu aujourd'hui, vont réussir à se réorganiser en un seul parti? Est-ce que le parti va exploser en deux ou trois composantes différentes? Dans le système américain, c'est très compliqué, c'est un système bipartisan. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut porter notre attention pour les mois et années qui viennent.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités. Romain Huret, historien spécialiste des États-Unis, directeur d'études à l'EHESS, vous avez publié « American Tax Resisters » chez Harvard University. Associated Press. Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. On peut écouter chaque semaine vos analyses de la campagne présidentielle américaine dans vos podcasts audio Trump 2020, produits par l'IFRI en partenariat avec la lettre d'information Time to Sign Off et Slate.fr. Laurie Kenton, maître de conférence à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous avez dirigé Le rêve américain à l'épreuve de Donald Trump, un livre collectif qui paraîtra le 8 octobre aux éditions Vendémiaire. Et on peut encore lire ou relire La fin du rêve américain, point d'interrogation, publié chez Odile Jacob, et L'Atlas historique des États-Unis, paru aux éditions Autrement en 2019. Merci à Victor Hull qui a réalisé cette émission et à Yael Co qui m'a aidé à la préparer. Géopolitique revient samedi prochain. Nous parlerons de la nouvelle donne au Mali après le putsch du 18 août. Bonne semaine à tous, portez-vous bien.